CFM, en Tarn-et-Garonne, le mag.
Bonjour tout le monde et bon mardi. Dans ce mag, aujourd'hui on vous proposera une conférence autour de la préhistoire dans la vallée de l'Aveyron. Ce sera ce vendredi à Saint-Antonin-Nobleval, organisé par la Société des Amis du Vieux Saint-Antonin et donné par Edmé Ladier, archéologue, préhistorienne et ancienne directrice du Muséum d'Histoire Naturelle de Montauban. Elle sera au bout du fil du téléphone juste après, puisqu'on est mardi et qu'on ne change pas les bonnes habitudes, la chronique des coups de cœur du réseau des médiathèques. Et on retrouve Victor Le Guenec.
Bonjour et bienvenue sur les coups de cœur des médiathèques du QRGA. Aujourd'hui, on cause argenterie, oisiveté, bookmaker et escroquerie. Avec, tout d'abord, un roman de P.G. Wodehouse, Bonjour Jeeves, une petite merveille qui met joyeusement en scène un gentilhomme un peu limité, Bertie et son génial domestique, Jeeves. On embarque alors dans une histoire des plus farfelues dans l'Angleterre bourgeoise et oisive du début du XXe siècle. Avec une intrigue des plus simples, Thomas Portallington traverse, oncle de Bertie, notre héros et collectionneur d'argenterie ancienne, convoite une pièce rare, un pot à crème en argent particulièrement hideux, en forme de vache. Mais, par un procédé indigne d'un vrai gentleman, son ennemi, Sir Watkin, met la main sur le précieux objet. Bertie se voit alors confié par sa tante Dahlia la mission de ramener le pot à crème en allant le dérober. Et, évidemment, tout va de travers. Situation grotesque, des plus farfelus, personnages truculents entre amateurs de tritons abominables, tante qui mange du verre pilé au petit déjeuner, vol de casque de policeman, fausse fiançaille et chien perdu. Seul Jeeves, le majordome, présente un point d'équilibre et de raison que les autres personnages perturbent jusqu'à la dernière page du roman. Moment tendu, multiples rebondissements, happy end, on frôle le vaudeville. C'est tout plein de quiproquos. Bref, on nous embarque dans une histoire extravagante et fort divertissante sur fond d'humour typiquement british. Le tout dans un formidable décor de vieille Angleterre. Si on ne ressort de ce roman ni plus sage ni plus instruit, l'auteur n'a d'ailleurs pas d'autre intention que d'amuser ses lecteurs. On en finit la lecture, les larmes aux yeux, de plaisir. Mais c'est peut-être tout simplement un livre qui rend heureux. À lire avec un verre de sherry. Et tout de suite, on s'engage dans un autre type d'aventure avec un film. Peut-être même celui à l'origine des films de cambriolage à suspense. Un film qui porte extrêmement bien son nom, L'Arnaque de George Roy Hill. Un classique du cinéma à voir et à revoir ici. Le réalisateur refait appel après Butch Cassidy et The Kid à Paul Newman et Robert Redford pour une nouvelle aventure de truands et d'arnaqueurs en tout genre. Chicago, années 30, deux petits truands, Johnny Hooker et Luther Coleman volent l'argent du Cain Lodegan sans connaître son identité. Coleman sera aussitôt abattu, alors Johnny se réfugie chez Henri Gondorf, un as de l'arnaque, et tous deux décident de venger leur ami en montant une gigantesque escroquerie destinée à ruiner Lonegan. Intrigue certes simple de vengeance, mais sublimée par la mise en place de l'escroquerie avec un E majuscule qui influencera tous les films de casse pendant les décennies suivantes. Le casting fonctionne à merveille, les deux protagonistes nous ensorcellent. Redford et Newman sont totalement à l'aise dans leur rôle et nous emmènent par le bout du nez à travers une mise en scène et une réalisation impeccable, un scénario mitonné aux petits oignons. Bref, L'Arnaque est un cocktail parfait de divertissement débordant de bonne humeur grâce à un rythme en constante accélération jusqu'à un final grandiose. Un film qui mystifie et fait sourire, c'est à la fois stressant et jubilatoire. Laissez-vous donc entraîner ou réentraîner gaiement dans cette entourloupe euphorique. Bonjour Jeeves de P.G. Wodehouse et L'Arnaque de George Roy Hill sont à retrouver sur le réseau des médiathèques du QRGA. Bonne lecture et à bientôt.
Merci Victor. Victor Le Guenec que vous retrouvez toutes les semaines depuis CFM Kélubs pour sa chronique des coups de cœur du réseau des médiathèques. Chronique que vous pouvez retrouver en podcast sur le site cfmradio.fr et Victor que vous retrouverez à la médiathèque de Kélubs. For years, you fed me only crumbs. You paid me only dust. Said I was too hard to love. The fuck up. Oh, you know I gave and I gave. Now I'm giving up. There's nothing more you can take. No, don't wanna cause a scene, but give me the gasoline tonight. The night.
thank you for showing me the pain. This was not a mistake. The mistake would be to stay. You know I gave and I gave. Now I'm giving up. There's nothing more you can take. No, don't wanna cause a scene. But give me the gasoline. Tonight's the night. I light a match. Throw it hard behind my back. Gonna try to forgive and forget. Light a cigarette.
FM Kélus, le mag.
De retour dans ce mag, on vous propose une conférence au programme de ce vendredi à Saint-Antonin-Nobleval autour de la préhistoire dans la vallée de l'Aveyron. C'est organisé par la Société des Amis du Vieux Saint-Antonin et donné par Edmé Ladier, archéologue préhistorienne et ancienne directrice du Muséum d'Histoire Naturelle de Montauban. Bonjour Edmé.
Bonjour.
La vallée de l'Aveyron, très connue par Bruniquel notamment, et donc la présence de l'homme de Néandertal en milieu souterrain profond, la plus ancienne de l'histoire. Mais c'est pas qu'à Bruniquel où vous avez trouvé des traces assez exceptionnelles de l'homme, et depuis longtemps. On passe notamment par Saint-Antonin-Nobleval dans votre conférence pour ce vendredi.
Oui, tout à fait. C'est vrai que Bruniquel a été remis à l'honneur, là, c'est depuis une dizaine d'années, avec cette découverte exceptionnelle à Bruniquel. Mais la vallée de l'Aveyron, elle est assez fréquentée pendant toute la préhistoire, depuis en fait à peu près 300 000 ans quand même, avec des périodes où elle est fréquenter d'autres périodes où elle est vraiment habitée de façon assez longue et assez pérenne.
Très fréquentée par sa configuration encaissée, je crois.
Oui, c'est ça. En fait, ce sont des gorges assez abruptes. Et les traces d'occupation humaine qu'on a dans cette vallée, elles correspondent presque toutes à des périodes climatiques très froides. Et donc, dans ces périodes, les vallées encaissaient, protégées des blizzards, des vents froids. Et c'est probablement pour ça que les préhistoriques s'y installaient. Et c'était valable pour les hommes, mais aussi pour les animaux. Donc, ils y trouvaient plus facilement de quoi subsister.
Puis, on a des belles falaises calcaires et donc ces grottes.
Voilà, et dans les falaises calcaires, il y a des grottes, mais pas que, il y a aussi des abris sous roche, c'est-à-dire des habitats qui se trouvent en pied de falaise. C'est le cas, par exemple, des abris du château à Bruniquel, qui sont les plus, enfin, extrêmement caractéristiques, très bien formés. C'est une autre forme d'habitat. En fait, les préhistoriques n'habitaient pas vraiment dans les grottes, ils y allaient. Manifestement pour se livrer à des activités rituelles, religieuses, on ne sait pas exactement, mais ils n'y habitaient pas vraiment. C'est assez rare, les vrais habitats dans les grottes. Ou alors ils s'installaient à l'entrée, pour avoir de la lumière, évidemment.
On sait où est-ce qu'ils habitaient, alors ?
Par exemple, en pied de falaise, comme à Bruniquel, parce que c'est un abri quand même. On est protégé par la paroi, par la falaise. C'est quand même très intéressant. Et on sait, dans la vallée de l'Aveyron, on n'a pas trop de traces, mais dans d'autres régions, en France par exemple, ou ailleurs en Europe centrale, là où il n'y a pas de de gorge, il n'y a pas de falaise, il n'y a pas de falaise calcaire, il n'y a pas de grotte. Et ils habitaient en plein air et ils se construisaient des habitations.
Des igloos, hein. Il faisait froid, il faisait drôlement froid dans la période dans laquelle on parle là.
Alors, pas des igloos, mais on connaît par exemple un certain nombre de maisons qui sont faites avec des ossements de mammouth. Ça, c'est très connu en Europe de l'Est. Il y en a en Ukraine, en Russie, dans l'ex-Tchécoslovaquie. Et donc, ils récoltaient des ossements de mammouth. Ils ne les chassaient pas spécialement pour ça. Mais on sait qu'il y a des amas d'ossements de mammouth qui avaient été pris dans des tempêtes ou dans des crues. Et ils utilisaient ces ossements, les défenses, etc., pour construire des maisons qui ressemblaient effectivement à des igloos parce qu'elles avaient un toit arrondi, quoi.
Habitation, lieu de culte. Alors, si on retourne dans la vallée de l'Aveyron, comment est-ce que vous avez pu étudier les différents lieux où vous avez retrouvé les traces, donc, dans la préhistoire, le néolithique, l'antiquité, la trace des hommes, donc, depuis plus de 250 000 ans?
Oui, là, on n'est pas dans le néolithique, on est dans le paléolithique. On a plusieurs phases du paléolithique, c'est très très long. Et en fait, moi j'ai fouillé quelques sites, mais les premières recherches ont commencé dans le milieu du 19e siècle. Et les trouvailles les plus spectaculaires ont été faites à cette période d'ailleurs, en particulier la grotte du Courbet ou les abris du château. Qui ont donné là c'était vraiment des habitats où les gens qui habitaient là, ils connaissaient pas ni la poubelle ni le tri sélectif. Et donc c'est le grand bonheur des archéologues qui retrouvent tout ce qu'ils ont laissé sur place. Donc leur reste de cuisine, les restes des animaux chassés ou des poissons pêchés. Et puis tous des outils perdus parce qu'ils sont trop petits ou parce qu'ils sont cassés. Donc c'est ce qu'on retrouve.
Et des sculptures aussi, des décors peints.
Voilà. Alors, les outils et les instruments, ça nous renseigne un peu sur leurs activités quotidiennes, quoi. On sait comment ils taillaient le silex pour se fabriquer, en particulier des armes ou des outils pour traiter les peaux d'animaux. Le bois de renne aussi pour se faire des armes ou des instruments domestiques. Et ils avaient aussi des activités artistiques qui étaient soit probablement gratuites, comme nous, comme on a des artistes qui aiment faire des belles choses. Et dans d'autres cas, ça avait probablement une signification symbolique ou culturelle ou religieuse, très certainement, en particulier dans les grottes.
Oui, on pense notamment justement à la grotte de Bruniquel avec ses amas de stalactites
en cercle. Alors la grotte de Bruniquel, bon, c'est très très ancien. On est dans une phase ancienne d'ailleurs de l'époque de l'homme de Néandertal. Et effectivement, cette structure, ça pose 3 millions de questions, quoi. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Parce que manifestement, ça leur a pris beaucoup de temps. C'est un truc énorme. Ils ont manipulé environ 2 tonnes de matériaux quand même.
Et puis des matériaux égaux, ils n'ont pas mis des trucs au pif en rond.
Voilà, donc ils ont tronçonné des stalactites ou des stalagmites dans des dimensions relativement standards, entre 30 et 40 cm. C'est pas n'importe quoi. Ils les ont empilés, quelquefois sur des rangées de 3 ou 4, calés par d'autres stalactites ou stalagmites verticales pour pas que ça s'écroule, et en forme d'ovale. Il y a aussi des traces de feu. Dont les spécialistes nous disent que c'était pas des feux domestiques, c'est-à-dire c'était pas pour faire la cuisine, et donc on ne sait pas pourquoi ils ont fait tout ça, quoi.
Ben pour éclairer.
Alors sans doute pour éclairer. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a trouvé à l'entrée de la salle un pilier stalagmitique avec un creux en haut et qui en fait servait manifestement de luminaire. On y a brûlé quelque chose pour éclairer.
Ça, c'était il y a 175 500 ans.
160, voilà, tout à fait.
Plus proche dans le temps, vous avez trouvé un bouquetin gravé dans l'abri de Fontalès. Là, c'est...
Oui, Alors, dans la plupart des abris, alors là, on a des périodes plus récentes. On est dans la dernière culture de paléolithique supérieure qu'on appelle le Magdalénien. Et là, effectivement, il y a dans la plupart des sites, on trouve des objets gravés ou sculptés. Et par exemple, à Fontalès, il y a plus de 300 objets qui portent des gravures comme ça, en principe des gravures d'animaux, donc bouquetins, chevaux, bovidés, bisons, etc. Il y a, dans pratiquement tous les sites, on trouve des objets gravés comme ça. À la grotte du Courbet, il y en a plusieurs centaines qui sont de véritables chefs-d'œuvre. Et dans les quatre abris du château, il y en a aussi partout.
Des gravures, des peintures et des sculptures aussi, je pense notamment à la Vénus de la grotte du Courbet.
Oui, il y a la petite Vénus de la grotte du Courbet, qui est une toute petite sculpture qui fait 2 cm et demi de haut. Mais il y a une grotte qu'on ne peut pas visiter, qui est la grotte de la Madeleine. Où là, c'est des bas-reliefs qui représentent des femmes et des animaux. Ce sont de véritables bas-reliefs, c'est plus que des gravures, c'est vraiment en relief. Et c'est très, très réaliste, elles sont absolument uniques d'ailleurs dans l'art paléolithique, ces femmes. Elles sont absolument exceptionnelles. Et c'est de la grande préhistoire, c'est du grand art, hein, c'est magnifique.
On parle donc de la préhistoire dans la vallée de l'Aveyron à travers ce que vous avez pu retrouver, donc des ossements, des restes de cuisine, mais aussi des œuvres d'art à travers toutes les époques où ont été habitées les gorges de l'Aveyron. Comment est-ce que vous allez tisser cette conférence autour de toutes ces thématiques?
Alors, bon, c'est vrai qu'il y a tellement à dire que ça va être difficile parce que je voudrais pas y passer 3 heures, bien qu'il y ait de quoi, mais ça peut lasser les auditeurs. Donc j'ai essayé de faire plutôt une présentation chronologique depuis le plus ancien, donc les 250 300 000 ans de Lic des Rameaux à Saint-Antonin, voilà, jusqu'au Magdalénien, qui est vraiment très très riche dans la vallée.
Et alors, vous avez des photos, j'imagine, de ce qui a été retrouvé, des scènes à nous représenter?
Oui, bien sûr. Cette conférence, en fait, ça sera un diaporama, un PowerPoint. Et donc, c'est ce que je fais habituellement parce que c'est beaucoup plus parlant. C'est-à-dire qu'en fait, il y aura énormément d'images que je commenterai, quoi, en fait. Parce que bon, si parler d'œuvres d'art sans les montrer, c'est un peu difficile. Donc je vais essayer d'en montrer un maximum, parce que même si elles n'étaient pas paléolithiques, elles seraient de toute façon exceptionnelles, tellement elles sont belles, quoi. Donc,
c'est très tourné autour des œuvres d'art que vous avez construit cette conférence.
Très tourné, c'est-à-dire qu'il y a... La préhistoire, c'est quand même une discipline assez aride, c'est-à-dire que les préhistoriens travaillent énormément sur les outils en silex, tous les instruments, les outils et armes qui peuvent être en bois de renne, en os, etc. Mais c'est quand même pas monotone, mais c'est moins parlant pour un non spécialiste qu'une œuvre d'art, qu'une représentation animale, quelque chose comme ça. C'est quand même beaucoup plus parlant qu'un discours sur les différents types d'armes au cours du temps, avec la technologie. C'est beaucoup plus aride, quoi. C'est très ennuyeux, en fait, pour les gens qui s'intéressent à la préhistoire, mais qui ne sont pas spécialistes. C'est pour ça que je vais insister pas mal. Je vais parler des outils en silex, en bois de renne, en os, etc. Parce que c'est là-dessus aussi que le préhistorien se base pour pouvoir distinguer les différentes cultures les unes des autres au cours du temps. Mais c'est vrai que c'est des sujets très arides et très, très difficiles. Donc, quand il y a des œuvres d'art, des choses beaucoup plus parlantes, c'est quand même plus intéressant.
La préhistoire dans la vallée de l'Aveyron, conférence là pour ce vendredi à 18h à la salle des congrès de la mairie de Saint-Antonin-Nobleval. C'est tout gratuit, initié par la Société des Amis du Vieux-Saint-Antonin. Edmé, vous allez aussi faire des visites commentées des collections de préhistoire du musée de Saint-Antonin en octobre le 3 et le 10 dans le cadre de la 35e fête de la science. Des collections de préhistoire au musée, il y en a un paquet. C'est tout aussi précieux que ce que vous allez nous proposer en photo là, lors de la conférence de vendredi.
Alors les collections de préhistoire du musée, ouais, elles sont très très intéressantes. Je crois que c'est la deuxième année que je vais faire ça, c'est une visite commentée dans ce cadre-là de la fête de la science. Et je le fais aussi parce que c'est un petit musée, mais qui a des trésors. Et en particulier, c'est une collection d'archéologie préhistorique qui couvre effectivement de très très longues périodes, et en particulier l'abri de Fontalès avec des œuvres d'art, des outils, des instruments, et puis aussi toute une série d'autres sites beaucoup plus récents, du néolithique ou de l'âge du bronze, qui en fait sont très connus dans toute la France parce que certains font référence pour certaines périodes. Et donc dans ce cadre-là, le musée de Saint-Antonin est extrêmement riche.
Vous êtes archéologue préhistorienne et ancienne directrice du Muséum d'Histoire Naturelle de Montauban. Est-ce que, pour terminer cet entretien, je peux vous demander, à titre vraiment très personnel, qu'est-ce qui vous a le plus marqué, enthousiasmé ou attristé en étudiant la préhistoire dans la vallée de l'Aveyron ?
Ah ben c'est toujours très très enthousiasmant quand on fouille par exemple sur un site de découvrir des choses qui sont là depuis 15 ou 16 000 ans et que personne n'a jamais vu depuis. C'est une émotion absolument extraordinaire. Et puis bien entendu le grand moment c'est quand avec ma petite équipe on a découvert la petite statuette dans la grotte du Courbet.
La Vénus.
Ah oui, ça... C'est exceptionnel parce qu'on en connaît très peu de ce genre de statuettes. Et donc, c'est vrai que c'est un très, très grand moment.
Et alors, faut l'œil, hein, parce qu'on la voit en photo sur le site de la Société des Amis du Vieux-Saint-Antonin, savsa.net. Et franchement, ben, surtout, vous avez dit qu'elle fait 2,5 cm.
Oui, 2,5 cm.
C'est un éclat de pierre, quoi.
En fait, ils ont sculpté ça sur un tout petit caillou qui avait une forme qui les a inspirés. Et en fait... c'est un de mes fouilleurs qui l'a repéré dans un tamis. Heureusement que c'était un amateur d'art. Et il l'a repéré, heureusement, très facilement, parce que ça aurait très bien pu passer avec tous les autres cailloux. Hein. Mais quand on travaille sur la préhistoire aussi, la plupart du temps, si vous voulez, on a une sorte de bibliothèque mentale dans laquelle on a accumulé tout un tas d'images, d'objets connus. Et c'est ce qui nous permet de reconnaître certaines choses que le non spécialiste est incapable de reconnaître parce qu'il n'a pas les références pour se rendre compte de ce qu'il voit. C'est très particulier.
Et ben heureusement qu'elle est tombée sous la semelle de votre collègue. Du coup, cette toute petite Vénus. Vous allez nous faire profiter de votre bibliothèque mentale. Un grand merci à Edmé Ladier, donc archéologue préhistorienne, ancienne directrice du Muséum d'Histoire Naturelle de Montauban, lors de la conférence autour de la préhistoire dans la vallée de l'Aveyron, de Saint-Antonin à Bruniquel. Ce sera ce vendredi à 18h à la salle des congrès de la mairie de Saint-Antonin-Nobleval. C'est bien sûr tout gratuit, on peut retrouver plein d'infos sur le site savsa.net, la Société des Amis du Vieux-Saint-Antonin. Edmé Ladier, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et merci à tous et à chacun de nous avoir suivis tout au long de ce MAG qui sera, comme d'habitude, rediffusé à 18h et à 21h et comme de coutume, à réécouter à loisir, sans modération et en podcast sur le site cfmradio.fr. La suite, c'est depuis CFM Montauban avec Rémi et ce sera juste après les